J'ai un autre rapport à la question, mais je vais la formuler autrement. Disons que en ce moment, il y a quelque chose qui s'appelle la fête charbonnière, voilà, dans la forêt des Coulmes, et ça sert à rien. Colline, ça sert à rien du tout. Une bande de zozos se réunissent en forêt et génère une énergie collective autour d'un organisme vivant, parce que c'est vrai que la charbonnière, c'est assez troublant. J'espère que vous irez faire un tour si vous n'y êtes pas déjà allé. C'est assez fascinant et ça a fasciné nombre de nos contemporains et de nos prédécesseurs sur la planète. Et ça a été très bien rappelé par Julien et Sébastien. Simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Pourquoi? Et je pense qu'effectivement, c'est là que je reviens peut-être à certains des mots de notre société qui sont notamment le rapport au temps dégradé. Hein. Bon, c'est un mot un peu savant, chronophage, voilà, des dévoreurs de temps. On est dans un moment où le temps ne cesse de s'accélérer. Je vous renvoie aux travaux de Hartmut Rosa, par exemple. Et que s'installer en forêt et vivre le temps long de la contemplation de cet organisme vivant un peu particulier que l'on bichonne, que l'on chouchoute, que l'on protège pendant une quinzaine, voire une quinzaine de jours à 3 semaines, de jour comme de nuit, ça inaugure un autre rapport au temps. Et de ce fait-là, ça permet aussi à celles et ceux qui vivent cette expérience-là. C'est très troublant parce que moi, je suis allé dormir au Mont-Noir avant-hier. Je sortais du boulot, donc tous les comptes avec mes textos, mes trucs. Et puis là, on voit celles et ceux qui couvrent le feu. Puis on se dit, mais ils sont déjà ailleurs dans le temps, disons. Et en quelques minutes, on bascule, on regarde ce qui se passe, et puis on s'installe et on prend le temps de la rencontre et d'apprivoiser ce moment. Puis en plus, il y a ces fumerolles, il y a une odeur particulière, donc il y a une ambiance qui se crée. Et moi, le lendemain matin, je suis allé me laver dans la fontaine de Petouze, au petit matin, puis j'ai repris mon train pour Valence. Et puis mes collègues me disent, mais t'es radieux, qu'est-ce que t'as? Alors j'avais dormi 3 heures, alors j'avais une énergie considérable. Et je me suis dit, tiens, mais oui, évidemment, parce que le temps s'est étiré. Et ça, c'est assez incroyable. Et je pense que, alors, pour revenir à ce que tu évoquais, la figure de bon du sociologue, philosophe Bruno Latour, c'est aussi ça qui habitait le monde en terrestre. L'enjeu, il est aussi de se réancrer dans cet environnement. Alors, tous les mots sont piégés, donc je mets des guillemets, environnement, disons. Ce que pourrait être l'espace de la cité dans le lien qu'on peut entretenir aux autres terrestres. Et c'est un moment particulier, effectivement, où on habite le temps. Voilà. C'est une très belle métaphore, cette fête charbonnière, qui permet à toutes sortes d'individus, d'horizons sociaux extrêmement variés. Et d'un seul coup, c'est aussi. J'ai commencé à parler de Marguerite Yourcenar tout à l'heure, mais dans la plupart des contes, que ce soit des contes européens, d'Amérique centrale, d'Afrique, etc., la figure du charbonnier permet le renversement de la hiérarchie sociale. Il y a un récit qui se déroule, je crois, en forêt de Troncée, où un souverain, on pourrait dire que c'est François Ier, je ne me souviens plus, s'égare au cours d'une partie de chasse. C'est quand même la personne la plus importante du royaume de France qui s'est perdue et il ne doit son salut qu'à celui qui est tout en bas de la hiérarchie sociale, le charbonnier, parce que lui, il connaît la forêt, il aide le. Et donc, dans l'univers de la forêt, autour de la charbonnière, il y a ce renversement, parce que, bon, on est tous couverts de suie. Et ça, c'est très intéressant. Et les fêtes charbonnières, pour en dire deux mots, parce que la première à laquelle j'ai participé, enfin, je pense à l'échelle du massif du Vercors, c'était en 1998. C'était des jeunes de Rancurel, Noël Jacquelin, Didier Bonnardel, il y avait Stéphane Cabrol aussi, etc., qui s'interrogeaient sur le renouvellement de la vogue. La vogue, elle avait perdu un peu de sa signification, la fête du village, voilà. Bon, c'était un peu plan-plan, c'était un peu installé, c'était un peu routinisé. Bon, il y avait le bal disco, et puis un repas villageois. Et puis là, ils ont dit, mais il faut qu'on réinvente une fête du village qui nous relie autrement. Dans le contexte où il y a déjà de renouvellement de la sociologie des habitants du Vercors, pour sortir de l'opposition néo versus autochtone, hein, qui est éminemment discutable, mais disons que. Et puis là, ils font cette fête charbonnier. Et puis. Voilà, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. Et moi, la plus belle image que j'en retiens, c'est la buvette qui est tenue par les chasseurs. Il y a les militants écologistes de la FRAPNA qui viennent là. Et puis tout le monde fraternise autour de la charbonnière, on boit un coup. Et donc toutes les oppositions politiques, de groupes sociaux, etc., dans le moment cathartique de la fête, c'est un moment très particulier, s'effacent. Et il y a une scène exceptionnelle qui s'est opérée à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était l'époque où il y avait le chantier du tunnel d'Arbois, je crois. Enfin, c'est bien ça? Qui était une entreprise, une filiale de Bouygues, je crois, qui faisait le tunnel. Ça a duré très très longtemps, la bourne était fermée, c'était un bazar épouvantable. Et les ouvriers du chantier venaient de la Seine-Saint-Denis. Il y avait parmi eux des Marocains qui savaient très bien manier la pelle. Et puis, ils travaillaient la nuit, puis le jour, ils faisaient la sieste. Et puis, ils sont vus ce truc-là à Rancurel, et puis ils sont allés participer à la fête des charbonniers. Et là, il y a une rencontre improbable entre des habitants du village et ces ouvriers marocains. Voilà, immigrés en Seine-Saint-Denis qui viennent donner le coup de main à la charbonnière. Et c'est éminemment intégrateur. Et je pense que des fêtes rurales comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Parce que la plupart du temps, les fêtes rurales, elles donnent en spectacle à des visiteurs supposés urbains. C'est le syndrome de la fête des moissons, vous voyez. On fabrique un moment ritualisé, puis on rejoue le truc à l'ancienne pour un public qui, lui, a perdu les codes de la ruralité. Mais il y a une opposition binaire entre rural et urbain, outre habitants et touristes. Mais là, il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas d'autochtones, il n'y a plus d'immigrés. On fabrique ce machin ensemble. C'est-à-dire que tout le monde peut être acteur de la fête. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et donc, autour de ce moment, ce temps long, et alors je pense que c'est une spécificité du Vercors, qui est un territoire qui a aussi sa mythologie. Moi, je m'intéresse à cette question des fêtes charbonnières. J'en ai regardé. Bon, j'ai passé mon enfance dans le Jura. Je vous raconterai ce qui me relie à la figure de l'Italien immigré. Mais dans le Jura, il y a des fêtes charbonnières en forêt de Chaux, par exemple, vers Dole. Mais ça n'a rien à voir avec les fêtes du Vercors. C'est des fêtes patrimonialisées qui sont construites pour donner en partage des techniques de vieux métiers disparus. Donc, il y a une mélancolie du monde d'avant et parfois de la nostalgie. Il y a l'équivalent dans les Vosges, il y a l'équivalent en Massif Central. Etc. La fête des charbonniers du Vercors, c'est vraiment autre chose. Et je trouve que la rencontre entre l'équipe d'À travers Corps et Culture Ailleurs, elle dit ça aussi. C'est-à-dire la possibilité de réinventer des sociabilités forestières, le temps de 3 semaines tous les 2 ans. Et c'est génial de ne le faire que tous les 2 ans, parce que tous les ans, ça deviendrait un business, ça deviendrait un truc, et puis on serait fatigué. Et puis, dès que là, il y a le temps de la réinvention. Et puis par ailleurs, et puis après je me tais, il y a la rencontre intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a eu la transmission de l'esprit de la fête par les pionniers. Bah, c'était qui? C'était Émile Locatelli, c'était Guérine Locatelli, c'était Danou Bennacchio, c'était Flora Secco-Revol, c'était Monsieur Guénaud, c'était... Donc toutes ces personnes qui avaient le savoir-faire, qui l'ont transmis à ces jeunes acrobranchistes, spéléologues ou accompagnateurs en montagne, qui ne connaissaient rien à cette technique-là, qui se la sont appropriées, puis qui la donnent en partage aujourd'hui des plus jeunes. Et là, c'est assez génial de voir que bah, nous, vous voyez, nos cheveux ont blanchi, on est maintenant des quinquagénaires, et puis de voir des jeunes de 20 ans qui ont repris le flambeau, moi, je trouve ça... Je sais pas ce qu'en pensait Alain et Jean-Charles, vous pourrez en parler tout à l'heure. Je trouve ça extrêmement émouvant, quoi. Parce que... Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'était le métier de charbonnier, qui est un métier difficile, hein, on en parlera éventuellement tout à l'heure, mais simplement, c'est un rituel collectif. Et je trouve que un rituel peut ne pas être religieux. Hein. Attention, nous, on ne fait pas du prosélytisme, dire, bon, il n'y a pas une secte, là, des charbonniers. C'est simplement donner à notre société qui est en mal de repères, en particulier dans son ancrage spatio-temporel, la possibilité de vivre des temps collectifs qui permettent de catalyser nos émotions ensemble. Ce qui est le rôle de la procession autrefois. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est extrêmement passionnant.
Il y a un petit texte qu'un artiste ami, Emmanuel Batelier, avait fait lors d'une venue à notre charbonnière en 2010. On quitte la route principale, il faut tout abandonner. Plus loin sa voiture, commencer l'ascension. Nous sommes attendus. Un spectacle commence. Il faut arpenter la pente, prendre la mesure du paysage corps à corps, se dépouiller. On cherche le chemin, en haut, toujours, là-bas. Des lambeaux de fumée respirent. Le bruit de la hache résonne encore en écho. Signal de vie humaine, une tribu nous attend. Ils ont façonné du bout de leur lame une hutte de rondins. Tous hirsutes et noirs, charbonniers. La maison en tronc fait comme de longs corps de glaise aux interstices moussus. Au creux de cette longue fente vallée de dentelle. Ils ont l'air pleins de cette simplicité pleine, rien d'autre que soi et la nuit étoilée. Les ombres sourdes des sapins finissent par tout envelopper. C'est l'appel, mené. On commence notre transhumance. Soudain, on remonte à la source. De larges flasques s'illuminent au ruisseau et c'est Pan qui vient s'y abreuver. Son corps de clair-obscur touche du doigt les sommets. Sa fontaine de jouvence enflamme la horde qui nous prend dans ses filets. En contrebas, on s'appelle, on se cherche, charbonnier. La nature retient son souffle et remonte avec lui. L'herbe prend feu. Les ancêtres semblent ressusciter. Ils sont là, à nouveau, ceux qui faisaient couver le dragon. Entassant, coupant, raclant, lui faisant manger les arbres par la tête, veillant sur son long sommeil. Dur bruit des corps au travail et de la machine en écho de musique samplée. Et voilà qu'ils le percent, l'achèvent, lui font monter des vapeurs, entrouvent son œil vif, des hurlements, de dents, scient et font tomber en cascade des fûts. Des torches s'enflamment, de longues jambes chevillent à l'entrouverture et c'est la silhouette ombre de cette diane de charme qui l'apaise à nouveau et l'envoûte. Un cheval de traîne-vapeur arrive pour tout emporter. Nous sommes au creux, au centre de la messe des charbonniers ressuscités. Donc voilà, cette impression ou cet endroit, quand on arrive aujourd'hui justement sur ce genre de lieu, il y a un petit texte qui va donner aussi la teneur entre la représentation ou le faire ou habiter la forêt où on compte. Il y a aussi ce travail qui est dur et harassant. Et là, il y a quelques années, quelques copains de Stéphanois qui ont réalisé un texte avec les 13 lettres de Charbonnier, et donc qui est assez court et que je trouve plus.
Et que c'est un livre qui se manipule à l'envers, à l'endroit. Donc c'est compliqué.
Il est réversible. Une partie divagation, parce qu'on aime bien divaguer, le mot portugais, divagar. Et aussi une partie expérimentation sur laquelle on prendra un petit peu le temps sur toutes les applications possibles et les recherches. Donc voilà un texte, une sorte de poème, écrit avec les 13 lettres de Charbonnier. Ce roc, ces arbres enracinés, ces aériens corbattes noires, sa bise saine, ici sans barbier ni boniche, Charbonnier brasse sans cesse. Aïe cherche son arbre, si hache, s'échine, s'acharne, écorce, charrie, en chie sans broncher, anarche son âne, sa scie cache sa hache. Aïe cherche bien, rien, cesse ses conneries, hache résinée, aïe cherche encore, rien. Aïe baisse son bras, sa scie saisie, cesse sa recherche, bonne branche choisie. Carne rossée, anarchée, ce soir Charbonnier boira sa bière bio bien brassée, en boc rat, rira niché en sa cabane sans ciné. Hic, barbe rêche, crâne cabossé, rein brisé, hernie annoncée, bobine noircie, bronche encrassée, échine harassée, air ronchon. Ainsi charbonnera, charbonnier, charbonne, 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 charbonne encore. Son cher charbon ira sec en sac. Charbonnier, chair rosée, bien rasée, chic, bichonné, ira en bas, hors son bois, charbon en sac. Bon charbon, bien charbonné, criera charbonnier. Texte réalisé par nos amis stéphanois dans notre cabane de charbonnier au col de Papavé. Qui en dit long aussi sur tout ce qui était le métier de charbonnier, puisqu'aujourd'hui ben, nous avons des tronçonneuses, des 4x4, des camions, bien que nous on essaie de travailler avec un cheval de trait et avec une certaine éthique, mais effectivement enfin, le métier a bien changé.
Moi je voulais juste revenir sur tout à l'heure tu parlais du temps. Et justement, dans le fait de faire une charbonnière sur 3 semaines et de faire cette fête des charbonniers, mais qui dure longtemps. Alors nous, on a une autre technique pour faire du charbon, mais qui dure 24 heures. Mais en fait, ce qui est assez rigolo et prenant, c'est que dans ces 24 heures-là, en fait, on fait un rituel où on invite les gens à venir passer 24 heures avec nous. Bon, ça ne dure pas 3 semaines. Mais c'est aussi intéressant de voir comme même si c'est 24 heures, en fait, ces notions de temps, en fait, presque de disparition, on ne sait plus où on est, de quand est-ce qu'on est arrivé, quand est-ce qu'on repart, cette espèce de sensation d'avoir toujours été là, d'avoir envie de rester, mais en même temps, on doit repartir. Donc nous, ça dure 24 heures, et eux, ça dure parfois 3 semaines, voire plus. Et là, je trouve ça vraiment super intéressant, nous, de nous retrouver demain, d'aller charbonner pendant 24 heures avec eux sur un temps vraiment tout bizarre, en fait, finalement. Voilà. C'est juste une petite pensée là-dessus.
Alors après, c'est vrai que ce que Julien disait tout à l'heure par rapport au fait de charbonner, nous, c'est vrai qu'on s'était posé la question de se dire, bon, chaque année, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, sur un rituel, à travers corps, ils le font très très bien par rapport à la dynamique que ça crée autour de leur collectif. Mais nous, c'est vrai que de notre côté, ou de l'autre côté, on est allé approfondir nos recherches autour du charbon et on a rencontré la Terra Preta. Terra Preta, période précolombienne, il y a 8000 ans. Les scientifiques se sont intéressés à ces sols noirs, donc Terra Preta portugais, hein, terre noire. À ces sols qui étaient amendés de charbon végétal, mais pas que, avec des bouts d'os, des bouts de terre, etc. Et les scientifiques, ces 30 dernières années, se sont préoccupés, puisqu'on compte que ce sont les terres qui sont quasiment les plus fertiles au monde aujourd'hui. Il y en a dans plusieurs endroits sur la planète. Et c'est vrai que ça nous a mis la puce à l'oreille de se dire que c'était du charbon végétal. Et qu'est-ce que faisait le charbon végétal dans ces sols? Et qu'est-ce que ça venait faire, quoi? Sachant qu'il y avait le charbon actif, voilà, pour dépolluer l'eau qu'on connaît. Et donc on s'est dit que, mais effectivement, il y a tout de même en compte une... le charbon, il a des vertus incroyables. Et comment trouver les moyens de le faire dans notre époque contemporaine, bien que c'est génial, hein, de pouvoir passer des mois en forêt aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très compliqué avec nos enfants à l'école, bien qu'on a commencé à les amener en mobylette. Tout à l'heure, on discutait comment vous y allez, mais et puis finalement, on s'est dit, et puis plus une question de pollution. Puisqu'on compte une charbonnière, quand elle fume pendant deux semaines, trois semaines. Et donc, aujourd'hui, les technologies qui ont avancé ont permis de trouver des solutions pour recycler les gaz afin de créer de l'énergie pour rendre les charbonnières autonomes et de capter ces gaz et d'avoir un bilan négatif à la fin de la fabrication du charbon. Et donc, ce que je disais, Julien, donc oui, nous, on a fait quelques vernissages à notre cabane, et puis on a fait quelques performances, des spectacles, et en même temps, on avait envie de produire du charbon. On avait envie de creuser dans ces recherches. Et donc, on s'est doté d'un four qui est le premier exemplaire en France aujourd'hui. Malheureusement, les différents fabricants industriels landais ou ailleurs en France qu'on a pu avoir préféré délocaliser leurs usines en Roumanie et ailleurs et se dire, ah oui, tiens, c'est vrai qu'un petit four à échelle humaine, c'est intéressant, mais on n'a pas le temps, évidemment. Et donc, c'est les Anglais d'Exeter qui ont mis au point, en compte, un four... Donc on a mis sur une remorque, donc nous on est mobile, et donc ça nous permet d'aller faire des chantiers de partout en forêt, dans les endroits reculés, donc on travaille que du bois, de la récolte, hein, de bois, on coupe pas d'arbres, hormis certains arbres ou certaines essences qui font... on travaille avec l'ONF qui nous permet de nous dire, bah tiens, là il y a une espèce invasive, il y a telle plantation, mais donc ça nous permet de charbonner n'importe quelle matière végétale. Ça va de la feuille, de la branche, de la paille et de n'importe quel temps de séchage. Et donc d'avoir en compte que ce soit du résineux, du feuillu, etc. afin de, avec ce four à pied, donc ce four, alors c'est pas vraiment le mot pour très clair, c'est une cornue à pyrolyse. Donc ça permet en compte de, il y a deux chambres, une chambre de combustion qu'on démarre avec un feu traditionnel qui enlève l'eau. Et ensuite, une fois que l'eau est enlevée de la matière, on va attraper les gaz et les essences pour les brûler. Et ça va rendre la machine en autonomie. Donc au lieu que... Parce qu'un tas de bois, on va dire 100 kilos de bois, si on le laisse pourrir au sol, ou un tas de feuilles, ou un tas de compost, il va émettre 183 kilos de CO2. Eh bien, en compte, cette émission de gaz carbonique et de méthane, etc., puis tous les autres gaz, hein, mais cette machine nous permet de les récupérer et de s'en servir comme énergie pour faire fonctionner la charbonnière.
En fait, si vous voulez, c'est comme le début d'une distillation. Voilà. Et au lieu de... Donc, au début, il y a de la vapeur d'eau, et au lieu de faire redescendre les gaz en température et de récupérer de l'alcool, en fait, ils sont réinjectés directement dans la chambre de combustion et ils prennent feu. Et le four va tourner jusqu'à ce que le bois qui est en train de charbonner, qui chauffe, n'a plus de gaz. Et à ce moment-là, le charbon est fait. Et en fait, cette technique en fait permet de contrôler vraiment la température et du coup d'obtenir un charbon qui est à 80%, on va dire, on a enlevé les essences du bois. Et c'est ce qui fait que le charbon, il est sec, quoi. Il n'est pas gras.
On obtient 80-90% de carbone sur donc ce qui est énorme. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce fameux carbone. Bon, on en parlait aussi par rapport à cette utilisation. Et donc voilà, c'était de se doter d'un four avec les techniques qu'il y avait aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a démarré en 2019 avec ce four. Donc, qui permettait aussi de ce que Julien disait au niveau du temps, c'est-à-dire ces 12 heures, enfin entre 8 et 12 heures de travail. Ensuite, il y a toute une phase de refroidissement. On retrouve exactement l'histoire de la meule, mais avec aussi des temps de repos, avec une quantité moindre, certes, mais avec un confort de vie et de non-pollution, puisqu'on compte la question aujourd'hui se pose clairement, quoi.
Puis en fait, le fait de chercher un carbone, on va dire, pareil, entre guillemets, pur. C'est que, en fait, ce qu'on cherche, nous, en fait, c'est qu'il est. Le charbon, c'est extrêmement microporeux. Et plus on va aller à enlever les essences, et plus, en fait, plus ces pores vont être en contact avec les surfaces, avec la surface extérieure, en fait. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse, notamment pour les histoires de dépollution, et aussi pour les amendements dans le sol. Parce qu'en fait. C'est sa capacité d'absorption, c'est-à-dire sa surface de contact avec l'extérieur, qui va lui permettre en fait, de capter les métaux lourds ou alors d'avoir des micropores extrêmement ouverts qui permet, en fait, quand il s'est incorporé dans du fumier ou dans des composts, à des microbactéries de venir s'y loger et de s'y développer. Donc on va chercher, c'est une technique particulière, pour une utilisation particulière. On peut s'en servir pour faire des barbecues, hein.
Mais à savoir que voilà, un morceau de charbon, enfin un centimètre cube de charbon, il y a plus de 50 millions de pores à l'intérieur. C'est comme un système, enfin c'est hallucinant, donc ça va jusqu'à la nano en termes de taille. Et donc l'idée de charbonner avec précision, ça va nous permettre d'aller jusque dans ces fameux... Donc il faut imaginer comme un système racinaire, hein, et là il faut se mettre dedans. Donc là pour ça on a besoin aussi du rêve, on a besoin des animaux pour se décaler puisqu'on va aller travailler la matière. Je fais une petite parallèle, mais c'est important pour aller voilà, dans ce morceau de charbon. Eh bien, comment on va aller dans une dimension qui est de la nano ? C'est hyper compliqué à se représenter ce que c'est la nano, puisqu'en compte, il y a très peu de temps, enfin moi à l'école, on m'a appris qu'il y avait 10 000 êtres vivants, animaux, etc. Aujourd'hui, on sait que sous notre pied, on en écrase 10 000 quand on... Donc, les micro-organismes, toute cette vie du sol qu'on a malheureusement abîmé et qu'on abîme continuellement, c'est aussi en compte d'arriver à se représenter à l'intérieur, enfin de l'infiniment petit, pour pouvoir en compte essayer de comprendre comment fonctionne en compte le charbon végétal. Donc c'est vraiment ce que disait Julien, la structure du végétal qui permet ces micropores. Et ensuite, ça va, donc ces micropores, plus on va aller charbonner, plus on va enlever les cendres, les goudrons qui sont à l'intérieur, plus on aura une capacité de réseau, comme une sorte de système alvéolaire, qui vont capter en compte, alors ce que disait Julien, les métaux lourds. C'est parce qu'en compte, le charbon, c'est un peu compliqué, mais c'est là où on rejoint le cinéma. Puisqu'en compte, l'éclair, le premier flash de cinéma, c'est avec deux morceaux de charbon, une anode, une cathode, et en compte, c'est l'arc électrique entre deux charbons qui permettent la projection. Et donc, c'est qu'en compte, le charbon, il a cette capacité à être chargé en électricité négative, ce qui va permettre, en compte, d'attraper tout ce qui va être les ions plus. Et les ions plus, là, c'est les pesticides dont sont gavés, le chlore, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on compte dans votre carafe, ou si vous allez à l'hôpital parce que vous êtes empoisonné, vous avez pris de l'eau de Javel, eh bien, la première des choses qu'on va vous donner, c'est du charbon actif. Et donc, ça a été prouvé par des scientifiques, Toheri et son collègue, je ne sais plus son prénom. Donc, il a bu de l'arsenic et il a pris du charbon actif devant l'assemblée. Et à partir de là, on a utilisé le charbon actif. On ne va pas rentrer dedans parce qu'il y a du charbon qui est suractivé, etc., etc. Mais ça, on pourra en parler ultérieurement.
Juste pour ajouter un truc, c'est qu'en agriculture, en fait, le fait d'incorporer du charbon dans le sol, en fait, il est spongieux. Donc, il va se charger d'eau. Il ne va pas le redistribuer, mais par contre, il va augmenter la quantité d'eau, la quantité d'humidité dans le sol. Et quand on l'incorpore au compost, justement, donc ça va augmenter sa facilité.
On a travaillé avec des étudiants de fin d'études, donc de 5e, 6e année de l'école d'ingénieurs de Grenoble. Et donc, ils ont pu nous faire des images en balayage électronique, donc à l'échelle nano. Donc là, on se représente bien qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du charbon. Donc effectivement, pour toutes les applications qu'on disait sur dépollution ou amendement pour les sols. Pour l'amendement pour les sols, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, la dynamique dont on parlait, ce qui va se passer, c'est que le carbone, comme il attire les éléments, bien c'est le magnésium, le calcium et le potassium qui vont venir s'accrocher à ces atomes de carbone. Et en compte, ces trois éléments, c'est ce qu'on appelle les CEC. Et donc, c'est ce que les plantes ont besoin pour pousser. Et grâce à l'oxydation du temps, il va le multiplier. Et donc il va garder les nutriments. Donc c'est pas le charbon en lui-même, mais c'est sa dynamique qui va instaurer dans le sol, tout en piégeant des métaux lourds. Donc voilà, enfin il y a de super utilisations autour de, enfin super c'est pas le mot, mais là on voit un test très clair là-dessus sur du colza empoisonné. Donc avec 0% de charbon de biochar. Alors on appelle ça le biochar aujourd'hui. Non mais biochar, c'est biologic charcoal, qui veut dire tout simplement charbon végétal. Et donc voilà, avec tant de pourcents où en compte les plantes reprennent le dessus pour pouvoir pousser, quoi. Donc voilà, enfin quelques applications, et c'est pour ça que effectivement c'est assez dense comme utilisation. Et donc c'est là où je reviens sur effectivement, ben, les charbonniers nous ont laissé un héritage tellement puissant. Qui en compte, on se doit de continuer à travailler autour de cette fabrication et ces savoir-faire, et aussi on se doit. C'est pas mais l'univers est tellement incroyable par rapport au possible qu'il ouvre sur l'eau potable, sur la désinfection des sols, les maladies, etc., etc., puisqu'on on en prend aussi pour se soigner. Nous, voilà, on est tombé dedans. Et donc, on a plein de systèmes de recherche. Aujourd'hui, on travaille aussi avec le Domaine des Hautes-Glaces, qui est une distillerie de whisky sur le plateau du Trièves. Et donc, on est rentré en résidence artistique et agronomique. Donc, on fait des tests parce qu'on compte aujourd'hui, il y a aussi la taxe carbone qui vient par là. Et donc, tout le monde se met effectivement à se dire qu'en compte, c'est intéressant d'en faire du biochar, puisqu'on compte, quand on charbonne, on compte le charbon, c'est un fossile. Quand on a changé sa matière, il est devenu fossile. Il ne va plus bouger. Et donc, on va stocker du carbone. Et aujourd'hui, tout le monde veut stocker du carbone, puisque, en compte, il y a la taxe carbone, entre autres. Mais il y a un réel intérêt aussi pour justement utiliser son déchet pour ensuite, après, amender ses sols. Et donc, là, avec le Domaine des Hautes-Glaces, nous travaillons pour 3 ans sur des recherches aussi en agronomie. Donc ça nous permet, en compte, de continuer à... Parce qu'en compte... on ne peut pas parler d'un biochar, il faut parler des biochars, puisque tout à l'heure on vous a dit que ce soit de la paille, une branche de hêtre ou alors une noix. Dernièrement, on a charbonné un agriculteur de Chatte qui nous a donné ses noix pour charbonner, pour qu'après il réalimente, etc. Donc, cette matière peut, quand elle est transformée par ces systèmes de pyrolyse, eh bien, elles ont encore... Donc, c'est un passage, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rupture, puisqu'on compte... on retrouve le carbone dans la matière et qui va encore régénérer du vivant. Et c'est vrai que là, les charbonniers, je pense que c'est ce qui est intéressant à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de petite mort et dans un espace où, effectivement, parce qu'il faut comprendre, on ne voit pas la charbonnière, c'est à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on travaille une matière qui est invisible, c'est-à-dire que c'est dans un espace confiné, que ce soit dans la meule ou dans la charbonnière, il faut arriver à lire l'ensemble de ces... pour pouvoir avoir un charbon de meilleure qualité. Et donc, c'est vrai que cet endroit de passage, pour après, en comptant produire, que ce soit un produit aussi pour... que ce soit après pour les forges, ou aujourd'hui, là, dernièrement, là, au début du mois, on a créé un bas-fourneau pour fondre des minerais sur le Trièves, pour avoir cette matière, etc. Enfin, je suis convaincu qu'en compte, c'est un endroit particulier et qui a sa richesse dans dans des espaces qui sont parfois loin de nous, mais qu'il faut aller à cette rencontre-là. Enfin, c'est un espace entre l'invisible, le noir, donc... bon, je parle beaucoup, mais... voilà, c'est comme ça qu'on a invité aussi, notamment, un des photographes qui a travaillé sur des photos de nuit. Et donc, le titre, hein, c'est « Habiter de jour comme de nuit ». Et donc, c'est aussi, on compte justement cette vision de comment voir dans le noir, tout simplement. Enfin, il y a, c'est aussi cette comment lire, en compte, un espace qu'on a du mal à saisir, qu'on a du mal à comprendre. Mais c'est sans les scientifiques, sans les historiens, sans les sociologues, on ne peut pas. C'est pas possible. Sans les artistes, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un espace aussi où on a besoin d'être... d'avoir en compte un ensemble de compétences, de personnes pour pouvoir comprendre cet univers.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je trouve que c'est passionnant. C'est vraiment une découverte incroyable. Mais est-ce qu'on pourrait aussi parler de la sociologie de ces charbonniers, de l'histoire, peut-être donner la parole à des personnes, parce que là, ça ouvre des horizons, mais c'est, vous en êtes très très loin par rapport aux éléments de connaissances que personnellement je peux avoir.